les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Frédéric Géa, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, soulève la question suivante : à quoi sert le droit du travail ? Troisième épisode : le droit du travail, une fonction sociale.
Chers auditeurs d'Amicus Radio, nous avons, la dernière fois, abordé la question de savoir si le droit du travail était un droit protecteur, et c'est une idée, on l'a vu, qui aujourd'hui apparaît discutable. En tout cas, on ne peut pas réduire le droit du travail à celle-ci. Et je proposais d'envisager plusieurs fonctions, en réalité, dont une fonction sociale. C'est celle-ci qui va retenir notre attention aujourd'hui. Alors, une fonction sociale du droit du travail, voilà qui peut apparaître surprenant. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, pour le comprendre, il faut partir de ce constat, à mon avis essentiel, selon lequel le droit du travail est un droit éminemment relationnel. On pourrait considérer que le droit, de façon générale, est relationnel. Mais enfin, le droit du travail l'est tout particulièrement, et ce n'est pas un hasard si la plupart du temps, on structure des exposés de cours autour du rapport de travail, ou des relations individuelles de travail, ou des relations professionnelles, encore dénommées relations collectives. C'est absolument pas, à mon avis, anodin. Ça confère un certain marqueur, je dirais, à ce droit qui va penser, à proprement parler, des relations et des relations spécifiques. Mais la fonction sociale de ce droit lui vient aussi de son objet, le travail, ou du moins, en l'état actuel des choses, certaines formes de travail, puisque le droit du travail se préoccupe essentiellement du travail subordonné. C'est l'un des critères essentiels du contrat de travail. Alors, Le travail avec ses sens multiples, hein, ses sens même évolutifs. On met souvent en avant l'étymologie, tripalium, littéralement trois pieux, c'était un instrument de torture composé de trois barres de bois, structure en bois qui permettait d'immobiliser en toute sécurité un animal, un fougueux, un cheval par exemple, de manière à lui apporter des soins, de manière à pouvoir l'examiner. Cette acception-là du travail, évidemment, renvoie à l'effort, à la peine, voire à la souffrance. Et d'ailleurs, Alain Supiot rappelle régulièrement que le premier usage de l'expression était lié à l'accouchement, hein, le travail de l'accouchement, à proprement parler, qui renvoie là aussi à une souffrance, mais aussi à une dimension de création, de naissance. Alors c'est cela aussi le travail, et ça c'est une autre dimension tout à fait capitale, c'est l'idée de création et de mise à l'épreuve de soi en vue de se réaliser. C'est une idée que pense de façon extrêmement habile Christophe Dejour, et qui n'est pas sans rapport avec la reconnaissance que l'on peut attendre, le cas échéant, du travail. Et je dirais volontiers qu'il y a encore une troisième dimension que l'on met peut-être moins en évidence. Et cette dimension-là, c'est l'idée selon laquelle le travail est le lieu par excellence de la coopération. C'est une thèse que défend le philosophe Frank Fischbach, l'idée selon laquelle, plus que tout autre lieu, eh bien, le travail va être celui dans lequel on va être amené à travailler avec des personnes que l'on ne côtoierait pas nécessairement dans un autre cadre, avec lesquelles nous ne serions pas nécessairement en interaction. Et c'est une des spécificités du travail que de favoriser cela. Un auteur comme Pierre-Yves Gomez met également en avant cette idée. Alors, une fonction sociale, disais-je, mais pour quelle finalité ? À bien y regarder, le droit du travail, au regard de sa fonction sociale, poursuit une série de finalités qui sont tributaire des différentes représentations que l'on se fait du travail. J'en identifierai par conséquent trois. D'abord, première dimension, la protection. C'est là que l'on retrouve la protection. Une finalité, parmi d'autres, au sein de la fonction sociale. Cette dimension, cette finalité de protection, elle renvoie tout d'abord à la protection du corps. Quel corps ? Mais tout à la fois celui du travailleur des mines, celui du travailleur exposé à l'amiante, celui du travailleur qui est exposé à une substance générant un risque élevé de développer une pathologie grave en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, pour utiliser le langage de la Cour de cassation. Le corps également de ces ouvriers du Rana Plaza, ce bâtiment qui s'est effondré au Bangladesh il y a quelques années. Il se préoccupe de ces corps, ils s'en préoccupent dans une logique de prévention, avec un devoir de vigilance, le cas échéant. La protection, c'est aussi celle de la personne, bien sûr. Le droit du travail a une fonction d'humanisation, certainement, de façon générale, qu'il emprunte au droit. Et je renvoie là au propos de François Host. Donc il y a une sécurité physique, il y a également une sécurité économique, hein, l'emploi va être le moyen pour le salarié de gagner sa vie, d'assurer sa subsistance, celle de ses proches. Et on retrouve l'idée selon laquelle, finalement, eh bien, cette protection participe d'une finalité générale du droit, l'institution de l'humain. Le droit n'a pas l'exclusivité, n'a pas le monopole en la matière, mais il y contribue. Ça passe également par la protection des droits et libertés fondamentaux, enjeu d'autant plus sensible que l'on se situe dans le cadre de rapports, nous l'avons dit, où le pouvoir d'une personne s'exerce sur une autre. Alors, cette finalité de protection, est-ce qu'elle a été reléguée sur un second plan au cours de ces dernières années? Oui, probablement, en ce sens que d'autres finalités, d'autres fonctions surtout, ont pu inspirer les réformes et être sensibles en réalité à d'autres enjeux. Je crois qu'effectivement on peut parler d'une relative régression de cette dimension, mais certainement pas d'une disparition et d'ailleurs des protections nouvelles. Sont nées l'ébauche notamment d'une protection, alors non pas pour les salariés pour le coup, hein, mais pour ces travailleurs des plateformes. Il y a une tension à l'heure actuelle, il y a un débat entre un début de construction de la part du législateur qui se garde de prendre position sur le statut de ces travailleurs, et puis une jurisprudence aussi hein, qui se construit et qui probablement continuera à cheminer. Mais au-delà de la protection de l'emploi, on repère aussi des dispositifs où c'est l'activité elle-même qui tente à être préservée. Je songe à ce qu'on appelle la loi Florange, cette ville de Moselle, une ville où la sidérurgie est très, très implantée. Vous savez qu'elle avait donné lieu à un engagement d'un candidat à la présidentielle, c'était François Hollande, de mettre en place un dispositif d'obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'un établissement. Cet engagement a été difficile à traduire hein, d'un point de vue juridique, il a fallu s'y prendre d'ailleurs à plusieurs reprises, mais enfin, il existe aujourd'hui une telle obligation, alors le mot est un peu fort, c'est avant tout une procédure hein, qui est mise en place dans laquelle sont associés très, très fortement les représentants des salariés, mais qui vise, disons, à mettre toutes les chances pour qu'une solution de reprise et donc de maintien de l'activité puisse être recherchée. Parler de fermeture d'un site, parler de la loi Florange, parler de la sidérurgie, c'est parler des hauts fourneaux et c'est parler du dernier haut fourneau qui s'éteint.
Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi. Y'a plus rien à faire, quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire, pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Alors, à côté de la protection comme finalité, on trouve au sein toujours de la fonction sociale d'autres finalités, en particulier ce que je désignerais comme l'émancipation. Ben oui, le travail a toujours été associé à cette idée d'émancipation. Le droit du travail a poursuivi, poursuit encore, me semble-t-il, dans une certaine mesure, cette idée d'émancipation. Qui n'est pas sans référer d'ailleurs à l'idée de valeur travail, me semble-t-il, à certains égards. Alors, de quelle émancipation s'agit-il ? Il y a déjà l'émancipation à côté du travail, et l'instauration des congés payés, 15 jours en 1936, la réglementation de la durée du travail, notamment la semaine de 40 heures toujours en 1936, mais enfin on pourrait aller parler des 39 heures, on pourrait parler des 35 heures, ces réformes-là ont quelque chose à voir avec l'idée d'une émancipation à côté du travail. Mais il y a aussi l'émancipation dans le travail, et les aspirations ou exigences liées au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail, qui sont portées par les salariés aujourd'hui, et qui donnent lieu à des dispositifs juridiques, à des négociations, le cas échéant. On peut considérer que c'est suffisant ou pas, c'est une autre question, hein, mais en tout cas, ça correspond à cette idée. Et à côté de l'émancipation dans le travail, on trouve encore une autre variété, je dirais, c'est l'émancipation par le travail. Et l'émancipation par le travail, ben, c'est aussi celle qu'ont pu rechercher des salariés, ou que peuvent rechercher des salariés avec, bien sûr, la rémunération, mais la reconnaissance par le travail, c'est assez central. C'est d'ailleurs plus central en France que dans d'autres pays. Hein. L'ensemble des études le montrent. La place du travail en France est plus importante que dans d'autres pays. Quand on s'intéresse aux préoccupations des Français, il y a bien une reconnaissance qui se joue là. On peut avoir un jugement positif ou négatif, d'ailleurs, sur cet aspect. Mais enfin, c'est une donnée importante. Et puis, il y a la question des compétences. Hein. L'émancipation par le travail, c'est aussi l'acquisition de compétences. Et c'est pourquoi pas l'acquisition de compétences pour ensuite passer à un autre métier, pour mener une transition professionnelle. Alors, quelles sont les parts respectives de ces différentes émancipations ? Évidemment, là, il peut y avoir discussion aujourd'hui. Moi, ce que je dirais, c'est que il y a des défis qui se posent. Alors, quels sont ces défis ? C'est d'abord celui de l'autonomie. Il me semble qu'on peut l'entendre, cette aspiration de la part de certains salariés, notamment des plus jeunes, qui ne sont pas forcément séduits par le modèle du travail subordonné. Hein. Donc il y a une recherche d'autonomie, mais évidemment, elle est extrêmement ambivalente, hein, cette possible autonomie. Ce que je constate, c'est que lorsque l'on examine les organisations du travail en France, et qu'on les confronte à ceux des autres pays européens, on s'aperçoit que la part d'autonomie est plus faible en réalité chez nous, et qu'on reste sur un mode d'organisation du travail qui, pour près de la moitié des salariés, est encore un modèle, je dirais, tayloriste en quelque sorte de ce type-là. À côté de cette idée d'autonomie, il y a une autre exigence qui me paraît capitale, hein, si on pense à l'émancipation, c'est la transition professionnelle, cette possibilité de changer de trajectoire. Ils sont nombreux aujourd'hui, hein, ces salariés qui, à un moment donné dans leur carrière, décident de passer à autre chose, à un autre rapport au travail, qui décident d'avoir une autre utilité au travail, et qui choisissent, le cas échéant, de se dérober à une certaine forme de pression, ou à un certain type de travail, disons-le ainsi. Protection, émancipation, disais-je, deux finalités s'inscrivant dans la fonction sociale, mais j'en vois une troisième, c'est cette idée de coopération que j'évoquais tout à l'heure. Cette coopération, non pas opposition, coopération entre le capital et le travail, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça se traduit comment ? Ça se traduit d'abord, et ça s'est traduit historiquement, par une forme de rééquilibrage. On sait bien que ce qui caractérise le rapport de travail, le contrat de travail, si l'on veut, c'est une forme de dissymétrie, d'inégalité au plan individuel, et que le collectif a été pensé justement pour compenser cette inégalité. Et qu'il y a un agencement, en réalité, assez complexe entre l'individuel et le collectif en droit du travail. Il me semble d'ailleurs essentiel de mettre en avant que le collectif est censé, je reprends là une idée de Robert Castel, servir de point d'appui en réalité à l'individu au sujet. Ce n'est pas un sujet autonome, c'est un sujet qui interrelie à d'autres en réalité, qui fonctionne dans une forme d'intersubjectivité. Ce rapport entre l'individuel et le collectif, au demeurant, il se reconfigure, se recompose aujourd'hui, et le droit du travail tente à mettre de plus en plus l'accent justement sur cette dimension collective. Ça passe notamment par la négociation collective et par sa suprématie, par la force particulière qui lui conférait par rapport au contrat de travail. Et puis, cette idée de coopération, eh bien, elle traduit aussi une certaine conception de la justice, celle que le droit du travail promeut ou tente à promouvoir. Parce que oui, l'idée de justice et même de justice sociale n'est pas étrangère au droit du travail. Et c'est assez logique. Hein. Je rappelle que la justice est mise en avant par François Hoste comme étant une des finalités extrinsèques du droit. Il n'est donc pas étonnant qu'on la retrouve avec sa déclinaison particulière ici. Alors par quel mécanisme ? Ben, par le mécanisme de l'action collective, certes, mais aussi et surtout aujourd'hui par une certaine organisation de l'entreprise avec des représentations, avec des concertations, avec les mécanismes de la négociation collective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de confrontation, qu'il n'y a pas d'opposition, hein, pas du tout. Elles sont évidemment possibles et évidemment mises en scène. Ce n'est pas une vision irénique hein, que j'évoque là, c'est tout autre chose. C'est possiblement une contradiction d'intérêt, une opposition d'intérêt, mais qui va évidemment être dépassée, c'est ça l'idée, et c'est de cela qu'est porteur le modèle de dialogue social qui se trouve mis en avant aujourd'hui. Peut-être faut-il y voir d'ailleurs une forme de conception procédurale de la justice. Voilà pour ce qui est de la fonction sociale. Reste que celle-ci côtoie une autre fonction, la fonction économique, celle dont nous parlerons la prochaine fois. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.